Didier Codorniou pour ce Radio Barque numéro 3 de la 9e saison. Nous allons évoquer avec vous le PNR, puisque vous présidez cette... Alors, qu'est-ce que c'est comme structure, le PNR ? On connaît le sigle, Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, pour être exhaustif, mais les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est. C'est une administration, qu'est-ce que c'est ?
Oui, non, le parc naturel régional est un syndicat mixte, hein, qui permet de fédérer l'ensemble des acteurs et qui a comme mission donc de préserver, de valoriser, de travailler sur donc des enjeux liés à la biodiversité, et bien sûr de valoriser donc l'existant. Je pense aux métiers donc comme la viticulture par exemple, comme l'agriculture, comme toutes ces métiers qui ont besoin donc d'être mis en avant et qui portent donc des contrats avec Natura 2000, qui travaillent donc avec les services de l'État, avec la DDTM, avec la DREAL, donc sur des zones fragiles, sensibles, qui en même temps peut travailler sur de l'ingénierie, qui peut donner des avis, qui est consulté quand il y a des modifications sur les schémas donc liés sur donc des planifications de l'espace. Je pense donc sur les SCOT, sur des aménagements avec les PLU ou les PLUI.
Voilà, oui, les plans locaux d'urbanisme. C'est des documents d'urbanisme.
Et donc le PNR et tout ça. Mais le PNR.
Mais pour être clair, donc qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à un parc national qui ne fait que de la conservation. Là, on fait du développement économique.
Il y a aussi une orientation économique qu'on a peut-être aussi beaucoup laissée, notamment aux premières
années. Et dont les gens ne sont peut-être pas très conscients, justement.
Non, parce qu'en fait, le parc naturel et régional peut développer de l'économie, et notamment du tourisme de nature, de la promotion des produits. Nous avons des produits qui sont labellisés PNR, je pense par exemple à l'olive, l'huile d'olive, l'olive dans toute sa spécificité. Je parle également, je pense aussi au sel, donc le sel qui est labellisé parc naturel régional, et aussi les gîtes qui rentrent donc dans une spécialisation des gîtes de nature. Bien sûr, il faut rentrer dans un cahier des charges qui rentre aussi, donc qui peuvent être labellisés par naturel et régional. Et le monde économique, on l'a un peu laissé de côté. Moi, quand je suis arrivé aux affaires, si je puis dire, j'ai donné une connotation, une orientation très tourisme de nature. Dans le cadre du renouvellement de la charte, puisqu'il y a aussi une charte.
Oui, il y a une charte qui définit les
orientations stratégiques. Donc, dans ces orientations stratégiques, nous voulons vraiment donc mettre un accent sur l'économie. Le parc n'est pas une structure fermée, n'est pas donc on met pas sous verre, donc sous cloche le parc, et derrière on ne peut pas y rentrer, on ne peut pas y exercer de l'expérimentation, de l'innovation. Bien au contraire, les prochaines orientations, ce sera de l'innovation, de l'expérimentation, pour montrer que dans le cadre de la résilience du littoral, sur des sujets sérieux comme la mer monte, comme aussi la désalinisation, comme donc avec les espèces qui souffrent donc avec le sel qui remonte donc aux surfaces, comment on peut arriver à travailler, comment on peut donc développer des nouveaux outils.
Oui, voilà, ce côté économique me semble intéressant et utile à souligner, Didier Codorniou, parce que le public n'est pas tellement au courant, me semble-t-il, et il y a peut-être un déficit d'information ou de communication sur cet aspect-là du parc naturel, qui ne fait pas que de la conservation.
Oui, et puis on s'aperçoit, moi, avec le temps, puisque ce parc, il est quand même né depuis 2003, donc nous fêterons...
Oui, il y a une vingtaine d'années.
Voilà,
déjà,
nous fêterons donc l'an prochain... Donc, avec un petit décalage, les 20 ans que l'on fête plus ou moins aujourd'hui, mais on se donnera les moyens d'aller un peu plus loin, parce que là, aujourd'hui, on a ouvert beaucoup de dossiers. Et en même temps, il faut que nous soyons les ambassadeurs. Pour être les ambassadeurs, il faut qu'il y ait une bonne connaissance de ce qui a été fait, de ce que nous voulons faire, et il faut en même temps qu'on arrive à valoriser encore plus ce parc naturel régional. Par exemple, sur des choses relativement simples, depuis 10 ans, cher Jean-Claude, nous avons fait des demandes pour avoir des panneaux sur donc l'autoroute donc de qui croise donc entre l'Espagne donc Barcelone, Montpellier et Toulouse
sur la 9
sur la 9 et en fait ces fameux panneaux indicateurs et qui en même temps vont promotionner les parcs naturels, ça fait 10 ans qu'on demande une autorisation.
Et alors qui ne donne pas l'autorisation?
En fait, ça y est, on a les autorisations, mais il fallait passer par les services de Vinci, par la DDTM, par les services de l'État,
Le préfet de région. On retrouve l'administration française dans toute sa splendeur.
C'est incroyable, le temps long. Donc, en fait, on y est arrivé, on va donc pour la première fois.
Mais 10 ans pour obtenir des panneaux.
10 ans pour obtenir 3 panneaux.
C'est hallucinant.
C'est hallucinant, c'est incroyable, mais en même temps tellement vrai. Et donc nous allons les inaugurer en décembre. Mais là, c'est la valorisation d'un territoire et c'est très intéressant quand on rentre dans un territoire, quand on en sort, de se dire ben on est rentré dans un parc naturel régional. Moi, je m'arrêtais parce que dans ce parc, il se passe beaucoup de choses. Donc il y a des ostréiculteurs, il y a des pêcheurs, il y a des viticulteurs, il y a donc énormément de produits locaux. Il y a donc des gîtes, il y a des villages qui sont magnifiques. Il y a des paysages qu'il faut préserver et c'est tout ça. Donc le tourisme de la nature, on va, excusez-moi un peu le terme, hein, on va y mettre un peu le paquet pour qu'on réoriente donc l'aspect économique.
Voilà. Encore un mot sur ce PNR. Il va changer de siège puisqu'il est prévu qu'il se situe prochainement au Grand Castelloux à Narbonne.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, il était à la communauté de communes, donc l'ancienne communauté de communes de Sigean pour la Nouvelle, donc dans leurs locaux, qui sont certes des locaux sympathiques, adaptés, et également dans le cadre du développement durable, mais il était important d'avoir une maison du parc
là,
naturel.
C'est un ancien domaine viticole, et situé du côté de Mandirac.
Oui, là, le Grand Castelloux est vraiment un lieu magique, entre l'île Sainte-Lucie, où également donc Sainte-Lucie a été transformée avec des bâtiments, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais le Grand Castelloux va être un peu l'image de marque du Grand Narbonne, du parc naturel régional. C'est une structure donc qui appartient au conservatoire. C'est la ville de Narbonne qui est donc le gestionnaire. Et grâce donc au bon partenariat de la ville, du Grand Narbonne, des collectivités, la région, le département, et puis bien sûr l'agence de l'eau et l'ensemble des services de l'État, donc on va pouvoir avoir ce parc naturel régional au cœur de notre parc. Et là aussi, c'est une véritable opportunité d'être dans ce centre et aux côtés aussi de Sainte-Lucie. Sainte-Lucie, il va y avoir ce qu'on appelle les gîtes littorales. C'est la première fois, donc des investissements importants. Les deux équipements, on parle de 6 millions d'euros d'investissement.
Sur Sainte-Lucie.
Sainte-Lucie et le Grand Castelloux. Donc, on est également sur, pratiquement 6 millions. Donc, 12 millions d'euros d'investissement sur deux sites qui seront à côté. Et donc derrière la jonction avec le canal de la Robine, donc Narbovia, donc effectivement il y a du lien à faire pour que l'outil soit un outil qui va valoriser la biodiversité, également les paysages. Je parlais donc des paysages, et notamment de la faune et de la flore, je pense beaucoup aux oiseaux, donc et notamment aussi à la charpenterie de Marine, où on a comme projet une allège romaine qui donc pourra circuler sur le canal de la Robine et du Midi et qui pourra amener, je l'espère, de nombreux touristes visiter la maison du parc au Grand Castelloux, l'on va inaugurer en 2024.
Voilà, alors qui renforcera forcément le prestige et l'image de ce PNR. Alors, élargissons un petit peu plus, Didier Codorniou, l'horizon, passons du PNR à la région, là on passe sur une dimension un petit peu plus grande, dont vous êtes le premier vice-président, et entre autres compétences, on parlera peut-être un peu du train, mais il y a une structure qui s'appelle le Parlement de la mer, qui, si j'ai bien compris, est un peu votre bébé, Didier Codorniou, que vous aviez initié, structuré. Alors dites-nous un peu ce que c'est, ce Parlement de la mer, et où il en est, et vers quoi il se dirige.
D'accord. Donc ça fait 9 ans que ce Parlement de la mer a été mis en place. C'est une structure complètement atypique parce qu'elle n'est même pas associative. Elle m'a permis de fédérer toute la communauté maritime. Là aujourd'hui on est sur la 3e édition du Parlement de la mer. Donc en fait c'est un outil au service des citoyens grâce au Parlement de la mer, donc, parce que maintenant c'est la construction, il y a des outils que nous avons mis en place, donc la direction de la mer, il y a également la direction de la mer aujourd'hui qui est donc qui gère pratiquement plus de 150 millions d'euros.
Donc il y a une direction de la mer à la région,
au sein de la région, mais pas forcément le Parlement étant une structure complètement à part qui fédère donc toute la communauté. J'ai des scientifiques, j'ai des pêcheurs, j'ai donc des plaisanciers, j'ai donc des chefs d'entreprise, j'ai les chambres consulaires et j'ai aussi les services de l'État donc qui se sont associés à rentrer dans la structure.
Qualifiée, on peut dire.
Mais en même temps aussi qu'ils nous permettent de ne pas perdre temps sur les orientations stratégiques en termes de validation. Ouais. Donc ça nous permet de valider souvent des projets dans le cadre du plan littoral 21.
Alors, le plan littoral 21. Une parenthèse pour les pêcheurs, vous avez les prud'homies des pêcheurs.
Oui, alors on a le président de la pêche régionale qui est représenté. Nous avons également les petits métiers de la pêche qui sont représentés. En fait, nous avons tous les acteurs. Nous avons aujourd'hui une structure donc qui représente 25 personnes au niveau du bureau. Nous avons une assemblée qui est de 250 personnes et nous avons un forum que j'estime entre 1500 et 2000 personnes que nous consultons tout le temps. Donc il y a un agenda du Parlement de la mer que vous pouvez regarder sur notre site de la région et en même temps donc sur notre site Facebook et Twitter qui nous permet d'avoir des informations. Au niveau du Parlement de la mer, donc je vous disais, nous avons des outils, nous avons créé une direction, nous avons également créé avec l'État donc un contrat cadre qui s'appelle le plan littoral 21 qui nous permet de flécher des projets et de financer, pour ça que en même temps c'est très intéressant que les services de l'État soient dans le Parlement de la mer. Et puis ce Parlement de la mer aujourd'hui il est dupliqué, donc il y a les Hauts-de-France,
ça veut dire qu'il a été imité ailleurs.
il a été initié donc il y a déjà une année avec les Hauts-de-France. Donc avec Jean-François Rapin qui était le sénateur, qui était l'ancien président de l'ANEL, l'Association nationale des élus du littoral. Aujourd'hui, il est opérationnel. Il est exactement, c'est un peu le bébé de notre Parlement. Et puis Sud PACA. Donc aujourd'hui, il y a trois parlements de la mer. Moi, ce qui m'intéresse avec le Parlement de la mer, c'est d'avoir une écoute sur le plan national. Mmh. Ce que nous avons depuis quelques années, mais encore plus avec les ministres de la mer et également avec le Premier ministre, puisque je vous parlais du plan littoral 21. Le plan littoral 21, c'est un contrat avec souvent le Premier ministre, le préfet de région, la présidente Carole Delga et l'ensemble des acteurs. Donc ça nous permet en même temps de gagner du temps, de pouvoir flécher des projets très structurants, par exemple comme l'éolien en mer. L'éolien en mer est une volonté politique de la présidente, est une volonté aussi des élus de la région, et le port de Port-Neuve, mais je suppose qu'on en parlera tout à l'heure, est un équipement qui va apporter donc sur la structuration les moyens pour passer à la deuxième phase après l'éolien flottant.
Voilà, donc, est-ce que ça veut dire que ce Parlement de la mer aura pour mission ou pour tâche justement d'avoir un regard et voix au chapitre concernant ces éoliennes flottantes?
Le Parlement de la mer est déjà impliqué sur l'éolien flottant et comme vous dites, donc en fait il a un regard sur le chapitre, sur tous les chapitres d'ailleurs, des enjeux liés donc au réchauffement climatique, à la biodiversité, à l'attractivité. Et puis, en même temps, à l'échelle de valeur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est sur la réindustrialisation. Comment donc amener des entreprises chez nous, et c'est un objectif majeur.
Voilà. Eh bien, on conclut cette deuxième partie sur ce Parlement de la mer. On se retrouve tout de suite après la pause pour évoquer, allez, je ne le dis pas, suspense. À tout de suite, Didier Codorniou.